Il est 8h14 minutes. Alors, Alain, bien sûr, on va revenir sur la contre-performance des Canadiens hier, la 8e de suite.
Ouais. Écoute, je ne sais pas si on peut parler de contre-performance parce que, très honnêtement, au cours des 40 premières minutes de jeu, le Canadien a très bien joué.
Ouais.
Dominait le match et puis. Mais. En même temps, les lacunes, ce qui fait que le Canadien se retrouve aujourd'hui avec une deuxième séquence de 8 revers consécutifs, les lacunes ressortaient de façon évidente. Là. L'incapacité du Canadien à marquer des buts.
Ouais.
Ils ont 17 défaites par la marge d'un but cette année et il y en a deux par la marge de deux buts. Mais le deuxième but là, qui fait là, est dans un filet désert.
Okay, ouais,
alors, tu sais, dans les faits, là, c'est une défaite par un but. Mm. Et hier, là, c'était encore plus flagrant. On l'a vu, deuxième période, le Canadien obtient de nombreuses chances, 3 ou 4 échappées. Et celle qui a probablement fait le plus mal au Canadien, c'est celle de Nate Thompson. Il reste à peu près 2 minutes. Il s'échappe, sort le gardien des Oilers de son filet et lance sur le poteau.
Ouais.
Ça aurait fait 3-1 et à mon avis, tu aurais eu un match complètement différent. Et en plus de ça, comme on l'a vu souvent cette année, la troisième commence. Les débuts de période et les fins de période ont fait mal aux Canadiens cette année. Et c'est ce qui est arrivé hier, les 5 premières minutes de la troisième période. Là, les Oilers tournent dans le territoire du Canadien. C'est la panique qui s'installe chez les joueurs du Canadien. On écope d'une pénalité. Edmonton crée l'égalité. Ensuite, on marque le but qui allait devenir le but gagnant, celui d'Alex Chiasson, et on s'assure de la victoire avec un but dans un filet désert. Dano et Kotkaniemi ont marqué. C'était le retour au jeu de Brandon Gallagher hier. Par contre, Ben Chiarot n'a pas joué en raison d'une blessure au bas du corps. Et après le match, on va entendre un commentaire de Claude Julien là, qui, franchement...
Il ne sait plus quoi dire,
effectivement. C'est simple. On n'a pas le droit d'abandonner, puis on n'a pas le droit de s'apitoyer sur notre sort. On est payé pour faire un travail, puis faut continuer à essayer de trouver la solution. C'est aussi simple que ça. Puis, on est à bout de réponse. Comme tu peux voir, là, il n'y a rien que je vois dire ce soir qui n'est pas comme les autres fois. On a des chances de marquer, on manque des chances de marquer. Et puis, éventuellement, ça vient et ça nous rattrape.
Et prochain match demain face aux Sénateurs d'Ottawa.
J'allais dire, le problème, c'est que c'est sa job de trouver une solution.
Non, mais c'est ça qui est le problème, là, qui est inquiétant. Quand l'entraîneur dit, là, j'ai plus de solution.
Quoi faire, ouais.
Là, ça devient inquiétant, là.
Ouais.
Alors, on va voir, là. Je pense que, éventuellement, il va falloir que M. Molson prenne la parole, là, et nous dise exactement dans
ça
quel...
Ça s'en va où, cette équipe-là?
Ça s'en va où, exactement. Ouais. Est-ce qu'on continue avec le plan mis en place par Marc Bergevin? Qu'est-ce qui arrive? Parce que, là, de toute évidence, écoute, hier, la bonne nouvelle, là, c'est que le Canadien n'a pas pris de recul au classement dans l'Est et dans sa section, mais les clubs devant lui ont mis des matchs en main maintenant. Là. Parmi les faits saillants de la soirée, hier, Pekka Rinne est devenu le 12e gardien de l'histoire de la Ligue nationale à marquer un but dans une victoire de 5-2 de Nashville contre Chicago. C'est survenu en fin de troisième, c'est 4-2 pour Nashville. On a retiré le gardien du côté des Hawks. Et là, la rondelle se retrouve derrière le filet de Pekka Rinne, va la récupérer. Et il a amplement le temps et l'espace pour s'exécuter. Et t'entends les joueurs des Prédateurs là, qui « go for it » et c'est ce qu'il fait et marque un but. C'est le premier gardien à marquer depuis Mike Smith en 2013. Smith qui était le gardien des Oilers d'Edmonton hier soir. Martin Brodeur l'a fait 3 fois, lui, et Ron Extall a réussi l'exploit à 2 reprises. Neuvième victoire...
Je me souviens que Patrick Roy avait essayé aussi...
Oui, mais Patrick n'était pas très habile avec la rondelle autour de son filet.
Okay.
Martin Brodeur, très bon. Ron Extall, très bon. Mike Smith, hier, excellent. On l'a vu. Il est un peu comme Carey Price. Souvent, il peut lui-même relancer l'attaque là, pour les Oilers d'Edmonton.
Là, il faut que tu lobes, en plus. Là.
Non, c'est ça. Il faut que d'abord, tu lèves la rondelle. Il faut que tu sois habile avec la rondelle. Patrick, c'était pas ça. Disons, là, sortir de ses filets, c'était souvent une aventure pour Patrick. C'était pas le Lightning, 9e victoire consécutive hier, 4-0 sur l'Arizona. 3 buts de David Pastrnak et les Bruins l'emportent 5-4 sur les Jets de Winnipeg. Le Canada a été éliminé par la Serbie en quart de finale de la Coupe ATP. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, Eugénie Bouchard s'est bien battue, mais elle a été éliminée par Amanda Anisimova en 3 manches de 6-2, 3-6 et 6-4. Selon mon collègue Didier Hormégius de RDS, Danny Machocha serait le candidat numéro un pour devenir directeur général des Alouettes de Montréal et Mario Cecchini deviendrait président de l'équipe. Et si on se souvient des commentaires du propriétaire, du nouveau propriétaire en début de semaine, c'est aujourd'hui qu'on devrait faire l'annonce qu'on devrait connaître l'identité du nouveau président et du nouveau directeur général. Le nom de Mario Cecchini circule depuis un bon moment déjà, et Danny Machocha s'en est jamais caché. Il rêve d'un retour dans l'organisation des Alouettes de Montréal ou dans la Ligue canadienne. A été entraîneur-chef avec les Eskimos d'Edmonton, a remporté la Coupe Grey en 2005. Je sais qu'en fin de semaine, il fait pas très beau. On n'annonce pas du très beau temps.
Non.
Mais j'ai peut-être une suggestion pour les gens ici.
Ah oui, donc?
Pour les patates de sofa particulièrement.
Ce que tu deviendras dimanche?
Ce que je suis souvent. Ah, puis samedi aussi.
Ah oui, hein?
Écoute, c'est un beau week-end de football en fin de semaine.
Ah ben oui.
Il y a 4 matchs. Samedi, les Vikings contre les 49ers, c'est à 4h35. Et en soirée, 8h15, Tennessee est à Baltimore. Et dimanche, Houston à Kansas City, ça c'est à 15h05. Et à 18h40, les Seahawks de Seattle contre les Packers à Green Bay. Le problème, c'est qu'on annonce 10 pouces de neige à Green Bay dans la nuit de samedi à dimanche.
Hey, ça va être le fun.
Alors,
on ne voit plus les lignes, ils sont obligés de passer.
Mais tu sais que les Packers appartiennent à la communauté.
Oui.
Je ne sais pas si tu peux encore acheter des parts dans l'équipe, là, je pense pas, là, mais les gens là, pouvaient... Tu as à peu près 300 000 personnes là, qui ont des parts chez... Alors, ce que l'on fait en pareilles circonstances habituellement, on lance un appel à la communauté. Alors, on cherche 700 personnes
Pour
aller pelleter.
Ben voyons donc.
Oui, mais c'est pas la première fois qu'on fait ça. Alors, on leur demande de se tenir prêt pour dimanche et venir pelleter. Écoute, il faut avoir 18 ans et ça paye 12 piastres de l'heure.
Et avoir une pelle.
Oui, je sais pas si on fournit les pelles, par exemple. C'est pas indiqué dans le... Mais c'est la situation à Green Bay, là, si jamais... au moment du match, on dit que la tempête devrait être passée. Là.
Okay.
C'est surtout dans la nuit de samedi à dimanche. Là.
Ils ont-ils un terrain naturel, eux autres, ou ça?
Oui, oui, oui. Alors, c'est full plein air, cette affaire-là. Là.
Ah, ça, c'est vraiment le fun. Les joueurs, si quand il pleut ou il neige comme ça, le terrain vient boueux. C'est fantastique.
Alors, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi, tu sais, je sais pas. Le match à Kansas City est à 3h, le match à Green Bay est à 6h. Tu sais, Green Bay, là, il peut faire froid en colline, là.
Ouais.
Et en terminant, je te parle d'une petite nouvelle un petit peu. Il y a un espoir déchu des Yankees de New York qui s'est adressé aux tribunaux alléguant que l'équipe l'avait empêché d'accéder au baseball majeur afin de protéger la carrière de Derek Jeter.
Ah oui?
Le gars, il avait une moyenne au bâton de 244 dans les mineurs au niveau A, a frappé 4 circuits et pourtant il est persuadé que sa carrière a été sabotée par les Yankees, a déposé une poursuite en Cour fédérale de Caroline du Nord de 34 millions de dollars en dédommagement. Ça a été rejeté par le tribunal, évidemment.
Ça me surprend.
Alors, il s'est repris et il en a déposé une autre contre les Reds de Cincinnati.
OK.
Qui avaient refusé de l'inviter à leur camp d'entraînement parce qu'il était trop vieux à l'époque.
Lui, il se voit vraiment big, lui.
Ah, non, non, écoute, il y avait même dans les documents remis à la Cour, il y avait des lettres qu'il avait écrites à des dirigeants du baseball majeur afin d'obtenir leur appui. Il dit, il était évident que Derek Jeter contrôlait toute l'organisation des Yankees. C'est ce qu'il a écrit au directeur général des Rangers du Texas en disant, vous êtes un homme intelligent, vous êtes diplômé de Cornell. Pourquoi un athlète comme moi n'a pas eu sa chance?
Ben, la réponse est dans la lettre.
Moi, je vais en envoyer une aux dirigeants du hockey. Comment ça que j'ai pas eu ma chance, moi?
Ben oui, c'est ça. T'as joué jusqu'à quel niveau, toi?
Moi, j'ai joué jusqu'à midget, à peu près.
Puis t'as pas. Les Canadiens t'ont pas appelé rien?
Non, parce que moi, j'ai choisi les études.
Ah.
J'allais au séminaire.
Ça t'a été
les dépisteurs n'ont pas nous voir au séminaire.
Ben, tu parles d'une affaire.
C'est ça le problème.
OK, on va réfléchir là-dessus. T'as peut-être une possibilité. Peut-être un avocat qui va vouloir te représenter. Sur le pont Mercier, Linda.